Mes chers amis, en ce dimanche matin du 5 octobre 1986, nous avons à vous présenter notre quatrième exposé sur ce thème « Vivre de la vie d'un autre ». Et pour cette journée, le Seigneur nous a donné ces trois merveilleux textes qui font suite à celui d'hier, où il nous disait « Parce que moi je vis, vous aussi vous vivrez ». Je pense que vous le savez par cœur. Aujourd'hui, il nous disait « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Et il ajoute « À cause de ceci, le Père m'aime parce que je donne ma vie pour mes brebis. » Et enfin, si quelqu'un m'aime, s'il y avait cette réponse à la fin de la retraite, si quelqu'un m'aime, il sera aimé de qui? De qui voudriez-vous être aimé? Du Père de Jésus-Christ. Et vous pouvez savoir quel est cet amour que le Père avait pour son Fils. Vous serez aimé du même amour. Et un amour pareil, ça transforme une vie. Ça change une vie, ce savoir aimer. Et ce savoir aimer de quelqu'un qui nous connaît parfaitement, qui sait toute notre misère. Le diable peut venir vous accuser et vous dire tout au monde sur vous. Vous pouvez lui dire, mon Père me connaît mieux que toi. Hein? Et il sait tout cela. Alors, vous êtes libéré, l'accusateur des frères, qui essaye de vous déprimer, qui essaye de vous mettre dans le trou. Arrière de moi, Satan. Tout ce que tu me racontes, je le sais. Et même j'en sais plus que toi, parce que j'ai appris à me connaître mieux que tu me connais. Je me connais dans la lumière de Dieu. Et Dieu me connaît. Et c'est en me connaissant parfaitement qu'il m'aime. Et qu'il m'a tant aimé. Et qu'il m'aime de l'amour dont il aimait son Fils. C'est tonique, hein? Il sera aimé de mon Père. Mon Père l'aimera. Et puis, quelle est la suite? Nous viendrons à lui. Figurez-vous qu'il ne va pas vous laisser seul, tous ces solitaires. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Il ne méprise pas votre corps. Alors vous-même, ne le méprisez pas, mais livrez-le ce corps, tel que vous êtes, à Dieu. Et il en fera sa demeure. Le Père dans votre esprit, le Fils dans votre âme, le Saint-Esprit dans votre corps, le Dieu tout entier dans l'homme tout entier. Car l'apôtre Paul nous dit que notre esprit, notre âme et notre corps, que l'homme tout entier soit sanctifié. Et il nous dit que c'est lui qui le fera. Cette sanctification, ce n'est pas à vous, et qu'il opérerait, c'est lui qui le fera. Dieu notre Père, nous te demandons de prendre en main cette heure, de nous donner ta force pour que nous puissions transmettre ton message venant du sanctuaire et qu'il pénètre dans nos cœurs. Que nous ne pensions pas que ce message est bon pour notre voisin ou notre voisine, mais que ce message est pour nous. Individuellement, et que moi-même je sache que tu veux me parler à moi, le premier. Nous sommes devant toi, Nous savons que tu nous écoutes et que nous sommes responsables de toutes les paroles que nous dirons. Mais aussi que nous serons responsables de toutes les paroles que nous aurons entendues. Et nous voulons te demander que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais qu'ayant reçu ta parole, nous la laissions s'épanouir comme une semence de vie en nous et que nous n'empêchions pas sa croissance, qu'elle puisse germer, qu'elle puisse sortir de terre, avoir sa manifestation. C'est ce que nous te demandons en te priant que tu arroses maintenant cette semence et que tu l'amènes à maturité pour ta seule gloire. Amen. Eh bien, nous arrivons donc ce matin aux trois dernières questions de notre étude. Nous avons compris quelle vie Dieu voulait pour nous. C'était essentiellement notre sujet d'hier matin. Et nous avons vu pourquoi aussi l'homme ne l'a pas réalisé, cette vie à laquelle Dieu nous prédestinait. Nous nous sommes arrêtés aussi sur le don de la loi qui a été fait à l'homme parce qu'il réclamait cette loi avec la prétention de pouvoir suivre cette loi, de pouvoir l'accomplir. Nous avons vu que Dieu la lui a donnée puisqu'il se prétendait capable et responsable. Et ce qui a été manifesté par la loi, c'est l'incapacité totale de la nature humaine séparée de Dieu d'accomplir la volonté de Dieu. C'est une impossibilité. Et la loi a été donnée pour révéler cela à l'homme qui avait encore la prétention de pouvoir faire le bien. Et alors, devant notre incapacité, nous sommes arrivés à nous écrier, et j'espère que le Saint-Esprit vous aura fait avancer dans cette démarche. Mais alors, qui pourra nous libérer de ce corps de mort, de cette incapacité? Et nous avons considéré Jésus. Dieu nous a donné Jésus. Il a donné la loi sur le mont Sinaï et il nous a fait grâce en nous envoyant Jésus-Christ. Sur une haute montagne, et c'est sur cette colline du Calvaire que nous avons cherché à contempler Jésus. Non pas sur la montagne terrifiante de Sinaï, la montagne embrasée par le feu, par le tremblement de terre, de sorte qu'on n'osait pas même la toucher. Dieu s'est révélé dans une personne que des mains ont pu toucher, sans mourir. Et même que des mains ont pu lier. Et même que des mains ont pu saisir et les étendre sur une croix et prendre des clous et un marteau pour clouer ses mains qui étaient les mains mêmes de Dieu, du Créateur. Et quand cette chose ignoble s'est passée et qui nous montre la méchanceté si profonde de l'homme, ce qu'il est capable de faire, clouer les pieds qui portaient Jésus partout, tout, de lieu en lieu où il faisait le bien, où il apportait la délivrance, on les a cloués, tu ne marcheras plus. Des mains qui bénissaient, des mains qui consolaient, des mains qui caressaient les enfants. Il ne faut pas cela, nous les clouons. Et celui qui avait de telles pensées, des pensées de grâce, des pensées d'amour, qui ne pensait qu'à glorifier son Père et qu'à aimer les hommes, et il faut qu'il souffre et on l'a couronné d'épines. Sans parler de la flagellation qui avait fait de son dos une terre labourée. Ils ont creusé de longs sillons sur mon dos. Et il était là entre le ciel et la terre. Dans cette nudité, dans cette horreur de la crucifixion, et les gens passaient et repassaient devant la croix. Et ils l'insultaient. Et ils se moquaient de lui. Il mourait à la place d'un autre brigand. Dieu était à ses côtés et lui au milieu, comme le grand coupable. Voilà l'homme capable de tuer Dieu, comme le disait Nietzsche, ce génial démon. Nous avons tué Dieu, c'est vrai. Et après avoir dit ça, vous savez ce qu'il est devenu, Nietzsche? Le doux Nietzsche qui a écrit des horreurs, mais qui était très doux. Il est mort fou. Et très jeune encore. Quelle folie. Bien, nous l'avons vu, ce Jésus. Nous avons appris la méchanceté de notre cœur. Est-ce que sa mort vous a dit quelque chose? L'avez-vous vu, Jésus? Vous me verrez. Et parce que je vis, vous aussi vous vivrez. Comment? Il vit encore? Oui, il vit. Il a tout supporté. Il est entré dans la mort, cette mort qui fait tellement peur aux hommes. À cause de la crainte de la mort, pendant toute leur vie, les hommes sont maintenus dans la servitude. Cette mort qui plane sur chacun de nous. Nous savons bien que nous suivons le chemin de toute la terre, qu'un jour il faut mourir, si le Seigneur n'est pas venu avant. Et les hommes ont peur de la mort, pas tellement parce que ils vont mourir, ça sera fini. Il y en a si souvent qui ont dit pourvu que ça soit fini le plus vite possible. On la souhaite quelquefois la mort, et pourtant on en a peur. Parce qu'on sait très bien que après la mort, tout n'est pas fini. Après la mort, votre conscience vous dit que suit le jugement. Et si on a peur de la mort, c'est essentiellement parce qu'on a peur du jugement, malgré qu'on prétend qu'on n'est pas si mauvais que ça. Parce que on sait que Dieu est un Dieu saint. Et quand on arrive à cette heure-là, à moins d'avoir été complètement endurci, et de mourir dans cet endurcissement, eh bien, on est terrifié. Je me souviens toujours quand j'avais 17 ans, à l'hôpital, un infirmier me disait, tu sais Gaston, moi, je suis pas bigot, hein, je suis pas un momier, comme on appelait là-bas, hein, les gens qui pratiquent. Mais quand on viendrait me dire qu'il n'y a rien après la mort et qu'il n'y a pas de Dieu, je leur dirais, venez un petit peu voir comment les gens meurent ici. Oui, il y a un Dieu. Et ce cher ami, qui est mort maintenant à plus de 80 ans, je sais qu'il est près du Seigneur. Parce que Dieu a fait son œuvre aussi, dans son cœur. Mais en tout cas, il savait une chose, c'est que Dieu existait. Parce qu'il voyait les gens à l'heure suprême. De loin, on peut toujours se moquer. Mais il y a une heure où l'on prend conscience de cette sainteté de Dieu auquel nous aurons à répondre. Et qui ne nous condamnera pas parce que nous avons eu des péchés ou parce que nous avons été pécheurs, mais qui nous condamnera seulement parce qu'il nous avait offert sa grâce, un pardon gratuit, total, sur toute la quantité de nos péchés, et que nous l'aurons refusé. Personne ne sera condamné parce qu'il est ni pécheur. Comprenez-le bien. Vous n'avez pas demandé de naître. Alors Dieu ne vous condamnera pas parce que vous êtes né pécheur. Mais ayant réalisé dans votre vie que vous étiez pécheur, la bonne nouvelle du salut vous a été annoncée, et cette bonne nouvelle, vous l'avez refusée, vous l'avez méprisée. Alors vous aurez la bouche fermée. Dieu vous dira, mais je ne te condamne pas parce que tu es né pécheur. Je ne te condamne pas même parce que tu as commis des péchés, c'était ta nature. Mais je t'avais offert ma grâce et une autre vie. Une autre vie, la vie d'un autre, pour que sur la terre, tu aies un témoignage et que je puisse faire de toi ce que j'ai dans mon cœur et dans ma pensée. Car je t'ai créé pour un certain ouvrage et tu es mon ouvrage et je voudrais que tu accomplisses le travail, non pas que tu penses devoir faire pour moi, mais le travail que j'ai en vue pour toi. Et c'est ça qui est fantastique. Et si je vous demande de donner votre cœur au Seigneur, c'est parce que je vous dis non pas pour que vous n'alliez pas en enfer, je ne vais pas essayer de vous faire peur, mais pour que Dieu puisse servir de vous. Pour que vous puissiez réaliser le dessein de Dieu. Donner de la joie à Dieu. Vous n'aimez pas donner de la joie? Voyez-vous, il y a tellement plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais on a évangélisé d'une telle manière que on vous a toujours fait croire que vous deviez recevoir, recevoir, recevoir. Alors oui, vous êtes toujours d'accord de tout recevoir d'en haut. Mais est-ce que vous seriez d'accord de lui donner quelque chose? Et qu'est-ce qu'il vous demande? Votre pauvre vie. C'est ça qu'il vous demande. Parce qu'il veut la faire autre. Il veut vous donner une autre vie. Vivre de la vie d'un autre. J'espère que cela devient de plus en plus clair pour vous, et cette vie, c'est Jésus. Et alors, regardez la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Ces hommes qui crucifient Jésus, qu'est-ce qu'ils mériteraient? D'être exterminés. Or, aucun n'est exterminé. Et Dieu fait de cette croix le moyen même du salut de tous les pécheurs. Dieu fait du calvaire la source du salut. Voilà le miracle de Dieu. Alors que la nature s'est voilée pour ne pas contempler ce que l'homme faisait à son créateur, alors que la terre s'est mise à trembler, que les sépulcres se sont ouverts, que les rochers se sont fendus, le cœur des hommes reste endurci, impassible, alors que toute la nature a été en émoi au calvaire, et que depuis la sixième heure, midi, jusqu'à la neuvième heure, 3 heures de l'après-midi, c'était les ténèbres sur tout le pays, comme si la création tout entière ne pouvait plus assister à ce spectacle horrible, la créature mettant à mort son créateur. Et vous qui avez encore le cou raide, souvenez-vous que Jésus, lui, pour vous, il a baissé la tête. Vous savez ce que ça veut dire, baisser la tête? Il a rendu son esprit. Et vous ne vous rendez pas, vous? Il a baissé la tête. Quel exemple. Après avoir dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et avant de baisser la tête, qu'est-ce qu'il avait pu dire? Tout est accompli. Tout est accompli. Quoi? le salut de l'humanité. Puisqu'il fallait qu'il y ait expiation du péché, Jésus a paru pour que cette expiation ait lieu. Dieu prenant la responsabilité du péché, il dit, c'est moi qui vais réparer tout cela. Il ne vous demande pas de faire votre salut, il l'a accompli pour vous, ce qu'il vous demande, c'est de l'accepter. Christ est mort. Et vous n'accepteriez pas de mourir avec lui, de mourir dans sa mort. Quand vous voyez ce que l'homme est capable, vous dites, mais moi, j'aurais jamais crucifié le Seigneur. Heureusement que vous n'étiez pas de ce temps-là. Vous auriez tellement aimé ce temps-là. Mais vous savez très bien comme vous faites. Du moment, eh bien oui, dans les réunions, vous êtes des braves chrétiens, mais quand vous êtes dans le monde, on va avec le monde, on suit le monde, on est pris par l'ambiance. Et c'est difficile de ne pas être comme tout le monde. Et c'était difficile au moment de la croix, quand ce grand thaumaturge, mais pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas délivré lui-même? Tout d'un coup, on dit, il a délivré les autres, puis il n'est pas délivré lui-même. Lui qui a ressuscité les morts, puis maintenant il meurt. Dans l'impuissance, on voit bien ce qu'il était. Il nous a illusionnés. Vous connaissez les illusionnistes? Ben voilà ce que Jésus a été, puisqu'il n'est pas capable de se délivrer. Et même les brigands à côté de lui, ils disent, tu ne pourrais pas nous sauver. Tu as sauvé les autres. Ils l'ont injurié, jusqu'à ce que l'un tout à coup rentre en lui-même et soit brisé et reprenne son camarade. Et lui dit, mais est-ce que tu réalises? Nous, on est ici justement, mais lui, il n'a rien fait qui ne se dû faire. Ne crains-tu pas Dieu, un brigand? Ne crains-tu pas Dieu, un brigand sur la croix qui oublie ses propres douleurs, ses propres souffrances, et qui se met à dire à l'autre, est-ce que tu ne crains pas Dieu? Puis se tournant vers Jésus, il l'a vu. Vous me verrez. Et parce que moi je vis, vous aussi vous vivrez. Et il était sur la croix. Et il dit à ce brigand qui dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi, est-ce que vous avez pu dire cela? Il a cru qu'il reviendrait dans son règne, donc que la mort n'était pas tout pour Jésus. Il n'avait pas fait de la théologie, il avait été dans une école biblique pour apprendre ça. Il a appris ça sur la croix, que le Seigneur régnerait. C'est fantastique. La révélation de la croix à un brigand, il régnera. Il y en a tellement qui n'ont pas compris que le Seigneur régnera. Et Jésus, immédiatement, se tourne vers lui. En vérité, je te dis, après 300 ans de purgatoire, tu seras avec moi dans le paradis. C'est votre version. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Faites pas que c'est merveilleux. Qui est-ce qui vous dit cela? Moi? Non. La parole. Ceux qui ont assisté à cela, ils ont entendu ces paroles et ils les ont données. Voilà le Seigneur qui sauve sur la croix. Voilà un païen qui préside à l'exécution parce qu'il est soldat romain. Quand il le voit mourir ainsi, il dit, certainement cet homme était fils de Dieu. Voilà ça comment. Par la croix, les âmes sont touchées. Et celui qui présidait à la crucifixion de Jésus, son cœur est brisé et il confesse le Seigneur comme Pierre l'avait confessé. Alors que Pierre, un peu avant, l'avait renié. Le païen dit, certainement celui-là était fils de Dieu. La croix, mes bien-aimés, Paul disait, pourtant il n'y avait pas assisté, mais il disait aux Galates, je vous ai dépeint le Christ crucifié sous vos yeux. Et ce Christ crucifié, il est notre salut. Oh, maintenant, oui, je veux mourir dans cette mort, j'accepte cela. Mourir dans sa mort. C'est ce que vous avez lu dans le chapitre 6 des Romains. Non seulement vous apprenez qu'il est mort pour vos péchés, que le châtiment qui devait tomber sur lui, il est tombé, qui devait tomber sur vous, il est tombé sur lui, de sorte qu'il n'y a plus maintenant pour vous de condamnation. Parce que le châtiment, c'est lui qui l'a subi. C'est facile de croire peut-être cela. C'est une bonne nouvelle. Mais ce qui est plus difficile de croire, parce que ce qui m'intéresse, c'est pas seulement que mes péchés passés soient effacés, soient pardonnés, comme je suis encore pécheur, que je suis encore dans un corps de chair, et que je sais que je suis dans un monde où règne le péché, je risque de retomber. Et ce que je voudrais, c'est de ne plus retomber dans les mêmes fautes, c'est de ne plus avoir cette même vie qui m'écœure. Je voudrais une autre vie. Mais je sais très bien, ben pour que j'aie une autre vie, il faudrait d'abord que je meure. Bien, Jésus me dit, mais je t'offre cela, justement, je me suis identifié à toi, pour que tu sois avec moi dans ma mort. C'est ce que vous avez lu dans le chapitre 6 des Romains. Si nous croyons cette parole, nous avons été une même plante avec lui. Nous avons été rendus conformes à lui dans sa mort. Nous avons été identifiés à lui dans sa mort. Et quand Jésus est mort, vous aussi, vous êtes morts en tant que pécheurs. Mais quand il est ressuscité, lui qui a pris votre vie, parce que sans ça, il ne serait pas mort, pour qu'il puisse mourir, il fallait qu'il y ait péché sur lui. Il n'y avait pas de péché en lui. Alors, quels étaient les péchés qui étaient sur lui? C'étaient les vôtres. Et le salaire du péché, c'est la mort. Or, s'il est mort, c'est pour les péchés qu'il est mort. Mais quel péché? Les siens? Non, puisqu'il était saint. Donc, les vôtres. Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Ça, vous pouvez le croire. Il a payé le prix de votre salut par sa vie. Vous avez été rachetés, non pas par des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or, du pierre, mais par le sang précieux du Christ. Voilà le prix de la grâce. Oui, vous êtes sauvés par grâce, mais ça a coûté quelque chose. La grâce, est-ce que vous connaissez le prix de la grâce? C'est la vie de mon Seigneur. Et si moi je vis maintenant, c'est parce qu'un autre est mort pour moi. Eh bien, quand on a compris cela, c'est jugé. Nous ne vivrons plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui, pour nous, est mort. Parce que nous savons que maintenant, il est ressuscité. Alors, identifié à sa mort, nous sommes identifiés aussi à sa résurrection. Comme il avait la vie en lui-même, comme il avait dit, parce que je vis, vous aussi vous vivrez, quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités en lui. Vous êtes vivants en lui. Vous étiez mort avant, dans vos fautes et dans vos péchés. Mais maintenant, vous êtes mort au péché. Et vous êtes ressuscité en lui. Et vous êtes vivant en lui. Et vous êtes non seulement vivant en lui, mais il est remonté dans la gloire. Vous êtes assis en lui, dans les lieux célestes, au-dessus de toutes les puissances spirituelles de méchanceté. C'est ce que nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, chapitre 6 aussi, on est déjà assis en lui sur le trône. Voilà notre position céleste, nous sommes en lui, là où il est, dans sa victoire, non pas dans notre victoire, mais dans sa victoire. Mais comme il est devant Dieu pour nous, qui nous représente, et qu'il faut que l'œuvre se continue sur la terre, cette œuvre qu'il a parfaitement accompli, qu'est-ce qu'il nous donne comme grâce? Et il nous redonne à la terre pour le reste de notre vie, pour que nous soyons ses témoins. Comme le Père m'a envoyé, ainsi je vous ai envoyé. D'où venait-il, lui? D'en haut. Un véritable envoyé de Dieu, d'où vient-il? D'Amérique, de Russie, d'Asie, de Chine? Il y a des croyants en Chine? Non. C'était des hommes qui ont été d'abord en haut et qui ont été redonnés à la terre pour un témoignage. Et si leur témoignage est vraiment vivant, c'est parce qu'ils ont été d'abord en haut. Et quant à leur domicile, pour eux, c'est un domicile céleste. Et ils sont comme des ambassadeurs sur la terre. Mais ils reçoivent leur direction du trône. Leur pays, c'est le ciel. Notre bourgeoisie est dans les cieux. D'où nous attendons le Seigneur Jésus. Et alors, il nous a fait des ambassadeurs. Mais je n'ai pas fait de réclame pour mes bouquins parce que ce n'est pas mon genre. Mais ceux qui l'auraient voulu, dans le livre « Être chrétien », j'ai essayé de montrer justement cette erreur que l'on commet dans beaucoup de milieux. Dès que vous êtes soi-disant converti, on vous lance dans l'activité, dans l'action. On vous lance dans le service avant l'adoration. Or, si vous lisez, comme on l'a fait au camp avec Josapha et Françoise Ferland, au camp des familles, cette année, on voit que le Seigneur, quand il a parlé à Gédéon, il a commencé par lui montrer qu'il devait être un adorateur. Détruire les faux dieux d'abord, adorer, et puis ensuite, il se servira de lui. Mais nous, on met tout de suite les gens au service avant qu'ils aient une vie avec le Seigneur et qu'ils aient abandonné leurs idoles. Ils ont encore toutes leurs idoles, et même on leur dit de servir leurs idoles pour le Seigneur. Nous sommes vraiment à côté du chemin. Puis on dit que c'est l'évangile. Mais on veut tout de suite vous prendre. On a tellement envie de vous garder. Puis de faire de vous des grands prédicateurs. Des prédicateurs. Jaser du Seigneur à tout le monde. Jaser. Ça ne vient pas de nous. Nous avons à être des canaux. Mais on fait de nous des petits tonneaux. Hein? Et puis, il y en a qui nous remplissent. Puis après, on ouvre le robinet. Puis ce qui sort, ben, c'est ce qu'on a mis dedans. Tandis que vous avez à être, non pas des tonneaux, mais des tuyaux, des canaux, reliés directement au sanctuaire, pour laisser passer la parole du Seigneur, quand lui la donne. Il y a des moments où il faut savoir se taire. Mais on vous apprend à acheter vos perles devant les pourceaux. Pourtant, Jésus a dit qu'il ne faut pas acheter ses perles devant les pourceaux. Il faut savoir à qui on s'adresse. Et il faut prier pour les âmes avant de leur parler. Mais on ne sait pas prier. On ne sait pas écouter les âmes. On ne sait pas s'intéresser d'abord à eux. On est centré sur nous-mêmes. On veut faire du service pour le Seigneur. Et on tombe de nouveau dans le principe des œufs. Puis quand on a fini sa journée, on se rend compte qu'on est plus ou moins satisfait parce qu'on a parlé à tant d'âmes, etc. J'ai rencontré un pasteur qui me disait un jour, le soir, je prêchais dans son église, il avait fait des visites, puis il me dit, tu sais, aujourd'hui j'en ai tué 10. Il dit, quoi? J'ai fait 10 visites à ses paroissiens. Alors il les biffait pour une année, il était tranquille. Hein. Il en avait vu 10. Il dit, j'en ai tué 10. Mais vous voyez comment on est déformé, même quand on est réformé. On est déformé parce qu'on vient des fonctionnaires qui ont à répondre du nombre de visites qu'ils ont fait. Voyez-vous, il nous faut avoir affaire avec le Seigneur. Ses yeux regardent toute la terre. Et nous devons vivre dans sa dépendance. Alors je vous disais, dans Être chrétien, j'ai essayé de montrer qu'on est d'abord un parfum. C'est une méditation sur le chapitre 2 de la deuxième, sur la deuxième épître aux Corinthiens. On est d'abord un parfum. Ça ne parle pas un parfum. Ça se respire. Puis ensuite, on est une lettre. Une lettre, ça ne parle pas, mais on la lit. Vous êtes la lettre du Christ. Notre vie,
elle doit se laisser vraiment imprimer par les caractères de Christ. Les caractères de Christ veulent s'imprimer dans notre vie. Puis après, vous êtes le miroir du Christ, l'image du Christ. Eh bien, un miroir, ça ne parle pas, mais ça manifeste. Et une fois qu'on a été parfum, lettre et miroir, on a fait alors ses preuves, le Seigneur vous nomme ambassadeur. Hein. Vous pourrez parler. Un témoignage oral. Vous aurez une autorité pour parler, mais on nomme pas ambassadeur n'importe qui. Un petit jeune là qui vient de se convertir, c'est pas parce que j'aime pas les jeunes. Et je me sens encore très jeune, vous savez, malgré mes cheveux blancs. Et il peut nous donner encore la force d'un lion. Hein? Un jeune lion. Parce que c'est sa force à lui. Et c'est son renouvellement à lui. Et alors nous devenons ambassadeurs, nous devenons temple de Dieu et un homme en Christ. Un homme en Christ. C'était pour préparer les réunions de la première campagne de Billy Graham qu'on m'avait demandé de faire ces réunions dans 7 églises différentes pour préparer les églises à la venue de ce prédicateur. C'était à Paris. Et les messages ont porté. Alors on a demandé qu'ils soient publiés. Et ça a été fait, ça a donné ce livre, Être chrétien. Donc c'était des messages qui avaient eu un impact sur les âmes. Du reste, tout ce qui a été écrit, c'est toujours des messages qui ont été donnés. Alors, que la grâce de Dieu maintenant nous soit manifestée et que nous puissions comprendre que si c'est facile de croire que Christ est mort pour nos péchés, nous devons croire de la même manière, puisque c'est lui qui le dit, que nous sommes morts avec lui au péché. Et non plus regarder à ce que nous sentons, mais à dire, eh bien, je veux me tenir pour mort, puisque tu le dis. Je suis mort. Et vous savez, si vous le dites vraiment dans le Seigneur, vous le dites, moi je ne peux pas me sentir mort, mais enfin, tu le dis, bien je le crois. Mais dans la vie pratique de tous les jours. Alors, ne vous découragez pas si tout d'un coup vous vous sentez de nouveau que ça revient. Hein? Eh bien, non, mais quand même, Seigneur, je suis mort. Je n'ai pas regardé à mes manifestations. Je vais regarder à ce que tu dis. Et plus vous regarderez à ce que vous dites, au lieu d'être toujours centré sur vous-même, parce que c'est ça. On comprend la mort avec Christ. Mais on voudrait manifester la vie de victoire. Et Dieu dit de nouveau qu'on est centré sur nous-mêmes. On se ressent sur soi, parce que ça ferait bien qu'on puisse dire « j'ai une vie victorieuse ». Quelqu'un qui a une vie victorieuse, il ne le dit pas. Comprenez-vous? Parce que si il est dans la victoire, qui est-ce qui est dans la victoire? C'est le Christ, il parle du Christ victorieux, il ne parle pas de sa vie victorieuse. Et c'est cela qui est faux. Nous sommes retombés, même dans les milieux évangéliques les plus avancés, dans cette où on se ressent sur soi. C'est de nouveau le moi. Oh, mais un beau moi. Mais non, il n'est jamais beau, le moi. C'est lui qui est victorieux en nous. Et alors, et quelqu'un qui vit avec le Seigneur, de qui parle-t-il? De qui est-il occupé? Non plus de lui-même, non plus toujours de ses péchés, qu'il appelle plus ou moins mignons, non plus de ses progrès. Ses progrès, c'est les autres qui le voient. Mais il ne parle plus de ses expériences aussi. Il y a une expérience. Mais si je vous parle de mes expériences, je vous fausse. Et j'ai l'air alors d'être exceptionnel, alors que je ne suis pas exceptionnel. Je n'ai pas apprêché mes expériences. J'ai apprêché la parole. Et c'est cette parole qui vous donnera des expériences. Comprenez-vous? Mais nous, on aime bien entendre les expériences. Mais quand on parle de nos expériences, on reparle de soi. Puis on foule les autres, parce qu'on dit, moi, je ne serai jamais comme lui. Bon, lui, c'est une exception, ce n'est pas moi. Nous, lui, il vit dans les nuages. Mais nous, on est bien sur la terre. Ben, nous aussi, on est sur la terre. puis on a aussi des responsabilités sur la terre. Et le Seigneur nous demande d'être fidèles dans ces responsabilités-là. Mais on ne va pas toujours en parler. Mais on cherche à les accomplir pour le Seigneur. De cœur comme pour le Seigneur. Croire que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, ça fait un racheté. Hein? Il m'a racheté, il a donné sa vie pour moi. Mais maintenant, croire que je suis mort avec Christ, ça veut dire que j'ai admis la réalisation vraiment de mon baptême, j'en ai fini avec ma vie passée, avec mes plans, maintenant c'est lui qui est mon Seigneur. C'est lui qui va me guider, puisque c'est plus moi qui... Mettez votre personnalité au service du Seigneur, bande de menteurs. Tous ces prédicateurs-là vous mentent effrontément, peut-être sans le savoir. Il faut que nous recevions cette lumière des Écritures, il faut que nous réapprenions à lire la parole. Et l'on apprend que ce n'est plus moi, ma personnalité. C'est le Christ qui vit en moi. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de grandes personnalités chrétiennes qui se détestent, qui se jalousent? C'est justement parce qu'elles ne sont pas mortes. Parce qu'un mort, il ne jalouse plus personne. Hein? J'ai entendu un prédicateur justement parler de la mort avec Christ. Puis quelques instants après, dans sa réunion, quelqu'un est venu le trouver puis lui a fait un reproche sur quelque chose. Il s'est fâché tout. C'est pas du tout un mort. Il a dit, vous m'avez blessé à mort. Je l'entends encore. Donc il n'était pas mort. Il nous avait prêché la mort avec Christ. Il prétend qu'on l'a blessé à mort. Voilà. C'est quand même terrible, hein, qu'on peut être. Mais ça faisait bien de parler de la mort avec Christ. Alors, il n'est pas question de parler de la mort avec Christ. Il est question de d'être avec lui, caché en lui. Mais bien aimé, je vous ai massé pour vous dire ces choses. Parce que c'est, vous les retrouverez dans l'écriture, si vous voulez vraiment contrôler si c'est vrai, ou si c'est une doctrine que j'aurais prise ici ou là. Non. C'est ce que la parole de Dieu me dit. Et ce qui me réjouit, c'est de voir que cette parole que je lis et qui me donne cela, il la donne aussi à d'autres hommes que je ne connais pas, que je n'ai jamais vus, et qui sont dans un tout autre coin de pays, mais où ils ont saisi les mêmes grâces. Comme au temps de la Réforme, Luther ne connaissait pas Calvin, Calvin ne connaissait pas Luther, et les mêmes pensées, le même esprit étaient donnés dans des pays différents. C'est ça qui est fantastique. Et dans ces derniers jours, où il est dit que la connaissance sera augmentée, c'est pas seulement la connaissance au point de vue scientifique, mais cette connaissance biblique, cette connaissance de la parole de Dieu, du vrai sens des mots de Jésus, quand il disait renoncer à soi. Renoncer à soi, changer de sens. Mais pas seulement à la conversion. Mais tous les jours, c'est lui mon centre. Maintenant, vous voyez, les œuvres religieuses s'appellent partout centre. Hein? On fait plus d'un centre, il y en a tellement de centres. Il y a des centres partout. Parce que... Mais qui c'est qui est le centre? Directeur du centre? Mais attention, le centre, c'est Jésus. Et je ne veux pas connaître un autre sens que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Et je sais que je ne peux pas avoir une place autre que celle qu'il a eue crucifié avec le Christ. Et alors, si j'ai dit que recevoir Jésus comme sauveur faisait un racheté, si j'ai dit que recevoir Jésus comme Seigneur faisait un disciple, nous dirons que recevoir Jésus comme son bien-aimé, apprendre qu'il est notre bien-aimé, et puis justement vivre avec lui, eh bien c'est ça qui nous conduit à la sainteté. C'est cela qui fait des saints dans ce monde, quand Jésus devient le bien-aimé. Alors, nous avons maintenant nos questions que nous allons voir une fois encore. Vous avez lu Romains 8, hein? Si nous acceptons l'œuvre que le Christ a accomplie pour nous à la croix, acceptons-nous l'œuvre que le Saint-Esprit veut opérer chaque jour en nous. Et nous vous avons conseillé de lire ce merveilleux chapitre 8 des Romains, où justement, après avoir découvert qu'il n'y a qu'un Christ, que nous avons la délivrance, l'apôtre nous dit, et j'aimerais que vous ayez ce chapitre dans votre cœur, Romains chapitre 8, fixé dans votre sensibilité, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Qu'est-ce qui a été condamné pour vous? Jésus. Est-ce que, s'il a été condamné pour vous, est-ce qu'il peut vous condamner? Est-ce que Dieu peut vous condamner? Est-ce qu'on peut se condamner deux fois? Non. Il a été condamné pour vous, donc il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà qui vous déculpabilise. Et s'il n'y a plus de condamnation pour vous, ce n'est pas parce que vous n'étiez pas un pécheur, mais justement parce que vous étiez un grand pécheur. Et que tous vos péchés, il les a pris et il a été condamné pour tous vos péchés, passés, présents et futurs, puisque c'était notre vie toute entière qu'il voulait racheter. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ, cet esprit de vie qui était en Jésus-Christ et qui l'a fait sortir de la mort, elle s'applique aussi pour vous, elle vous affranchit de la loi du péché et de la mort. C'est une loi. Hein? Vous n'y êtes pour rien dans cela. Ce n'est pas vos efforts qui vous affranchissent. C'est une loi. Si vous avez accepté Jésus-Christ, dans sa mort, vous êtes mort et comme Jésus avait la vie, la loi de sa vie vous fait sortir de la loi du péché qui vous est toujours tombée, comme on l'a dit souvent. La loi du péché, c'est comme la loi de la pesanteur. Je peux exhorter mon stylo à rester dans les airs, je sais qu'il va tomber, n'est-ce pas? Il subit la loi de la pesanteur. Mais par la loi de la vie qui est dans ma main, je peux affranchir mon stylo de la loi de la pesanteur. Et c'est alors qu'il me devient utile. Parce que laissé à lui-même, il est parfaitement inutile. Mais dans ma main, alors je puis m'en servir et je l'affranchis de la loi de la pesanteur. C'est le Christ qui vous tient. Et c'est ça qui est fantastique. Dire qu'on a reçu Jésus, c'est bien, c'est une chose. Mais pouvoir dire, c'est lui maintenant qui me tient, ça va beaucoup plus loin. Et l'œuvre qu'il a commencée en vous, vous pouvez être sûr qu'il va la poursuivre. Et il est ajouté, car, verset 3, chose impossible à la loi, et nous l'avons vu cela, j'espère que vous en êtes convaincus, hein, ce que la loi ne pouvait pas faire, vous affranchir, parce que la chair la rendait faible, notre chair, elle était faible. Et alors, la loi s'adressant à notre chair, n'avait pas la force, c'est dit clairement. Parce que la loi, la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair. Mais dans quelle chair? Dans la chair que Jésus a accepté de prendre. Une chair sans péché. Il fallait que le péché que moi j'ai commis dans ma chair soit condamné dans la chair. Mais si mon péché était condamné dans ma chair, qu'est-ce qui m'arrivait? J'étais perdu. Mais le Seigneur est venu, il a revêtu une chair semblable à la mienne, mais sans péché, et il a accepté de prendre dans sa chair nos péchés pour pouvoir mourir. Et le péché qui était condamné par la loi a été expié dans la chair du Christ. Dieu a condamné le péché dans ma chair, méditez là-dessus, en envoyant, à cause du péché, son propre fils, parce qu'on ne pouvait pas s'en sortir avec le péché, dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. Est-ce que vous avez encore affaire avec la loi? La loi a été satisfaite par qui? Par Jésus-Christ. Vous comprenez? Alors, votre conscience est libre maintenant. Vous avez une bonne conscience, non pas parce que vous avez fait quelque chose, mais parce que c'est fait pour vous. Alors vous adorez. Pourquoi est-ce qu'on a si tant de Père à adorer? On devrait être des adorateurs. On devrait passer notre vie prosternée en quelque sorte. Il n'y a pas besoin d'être prosterné dans la poussière. Prosternez-vous dans vos cœurs. Vivez dans la louange. Vivez dans la reconnaissance. Voilà ce qu'il a fait pour moi. Et cela, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair. On est encore dans la chair. Mais maintenant qu'on a réalisé ce que Christ a fait pour nous, est-ce qu'on va encore marcher selon la chair? On est encore dans la chair, mais on ne marche plus selon la chair. Mais selon quoi? Selon l'Esprit. Cet Esprit qui nous a rendu la vie. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, nous avons tous vécu selon la chair, hein, autrefois. Mais quand on vit selon la chair, on s'affectionne à quoi? Aux choses de la chair. C'est pas étonnant que le monde aime les choses du monde. Il marche selon la chair. Alors c'est tout à fait normal que ceux qui marchent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, à la convoitise de la chair, à la convoitise des yeux, à l'orgueil de la vie. Il n'y a pas de miracle. Vous ne pouviez pas vous en sortir. Tant que vous marchiez selon la chair, vous aimiez les choses de la chair, ce qui correspondait à votre nature, parce que vous n'étiez que chair, comme nous l'avons vu. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et comment est-ce que vous vivez selon l'esprit? Parce que l'esprit a ressuscité le Christ d'entre les morts. Est-ce que c'est vrai que Jésus est ressuscité? Vous le récitez dans le credo, hein? Mais est-ce que vous le croyez? Alors, si c'est vrai qu'il est ressuscité, l'esprit qu'il a ressuscité vous rend vivant, vous aussi. Vous êtes vivant parce que le Christ est vivant. Parce que moi, je vis, vous aussi, vous vivrez. Alors, c'est pas une question de sentir quoi que ce soit. C'est une question de croire la parole. Alors, maintenant, je vais m'affectionner aux choses de l'esprit. C'est ça, la conversion. La conversion, c'est pas un changement de religion. C'est un changement d'orientation. C'est un changement de goût. On a d'autres goûts. On a d'autres désirs. Parce qu'on a reçu une nature nouvelle. Celle de l'esprit qui s'affectionne aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, vous le savez, verset 6, c'est la mort. Ça finit par la mort, vous le savez bien. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Oh, que c'est merveilleux. Avoir enfin la paix avec Dieu. Et la vie, c'est la vie et la paix, la vraie vie et la paix. Cette paix qu'il nous a donnée, non pas une paix que donnent les circonstances heureuses ou la joie que donne une situation favorable, mais la joie qui était dans le Seigneur, la paix qui était dans le Seigneur. Et c'est car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, et vous le savez bien. L'amitié du monde, elle est inimitié contre Dieu. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Alors vous avez un tas de gens qui restent sous ce principe de la loi et qui essayent de soumettre leur chair à la loi de Dieu. C'est une impossibilité. Cessez vos luttes vaines. Jetez-vous dans ses bras. Vous êtes de nouveau centré sur vous-même. Quand vous voulez lutter pour plaire à Dieu, vous ne pouvez pas, selon la chair, laisser l'Esprit faire son œuvre en vous. Verset 8. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vous pouvez être certain de cela. Il n'y a pas de miracle. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. L'Esprit si du moins l'Esprit habite en vous. Alors, est-ce que vous en êtes sûr de ça? Mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, vous ne l'auriez donc jamais reçu. Mais si vous l'avez reçu, vous avez reçu l'Esprit. Attention à ceux qui veulent vous imposer les mains n'importe comment, et puis que, bon, vous tombez dans les pommes, et puis vous croyez que vous avez reçu l'Esprit. C'est une chose terrible, parce qu'il y a tas de gens qui croient que c'est ça, et qu'ils ont reçu l'Esprit, et qui continuent de vivre entièrement dans la chair. Mais parce qu'ils ont reçu une secousse, ils pensent que c'est ça. C'est pas une question de sentir une secousse d'avoir l'Esprit. C'est réellement de s'être donné au Seigneur. Et le Seigneur ne vient pas en vous sans son Esprit. Vous ne pouvez pas séparer le Saint-Esprit. Maintenant, c'est une autre chose que le Saint-Esprit vous remplisse. La plénitude du Saint-Esprit, c'est autre chose. Et nous avons tous à être remplis du Saint-Esprit, mais c'est quotidiennement. C'est chaque jour, parce que vouloir simplement avoir une expérience sensible, nous croyons à tous les dons de l'Esprit, mais prétendre à des gens qu'ils ont reçu l'Esprit parce qu'ils ont une expérience sensible, c'est quelque chose de dramatique. Et il faut dénoncer cela, et il ne faut pas le pratiquer. Il se peut que nous soyons appelés à imposer les mains, nous y croyons, mais... nous ne dirons pas aux gens, ben voilà, maintenant vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est donné quand vous croyez. Mais maintenant, il doit se manifester avec puissance dans la mesure où vous le laissez se manifester. Et alors, quelle sera la preuve que vous avez le Saint-Esprit? Ce sera le fruit de l'Esprit. Et qu'est-ce qu'il est le fruit de l'Esprit? C'est l'amour. C'est la joie. C'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la douceur, c'est la fidélité, c'est la maîtrise de soi. C'est cela qui manifeste la présence réelle du Saint-Esprit en vous. Et le fruit de l'Esprit, ce n'est pas le produit d'une œuvre, le fruit c'est le produit de la vie. Comprenez-le bien. Le fruit est le produit de la vie. C'est pas le produit d'une œuvre. Parce que, oui, les œuvres de la chair, elles sont manifestes, mais les œuvres, c'est le produit d'un effort. Or, il n'est pas question de faire un effort, il est question de vivre en Christ. De laisser la vie de Christ se manifester en vous. Puis il vous donnera tous les dons qu'il voudra. Que ce soit le don des langues, mais alors les vraies langues, hein. Que ce soit un autre don, selon les besoins que vous pouvez avoir. Et c'est là qu'il faut faire attention de ne jamais dérailler. Et pour ne pas dérailler, il faut rester sur la parole. Parce qu'aujourd'hui, vous avez toute espèce de courant. Et on essaye de vous capter d'un côté, d'un autre, de vous faire croire qu'il vous manque ceci ou qu'il vous manque cela. Ce qui compte, c'est que vous soyez en Christ et que vous laissiez maintenant le Saint-Esprit faire l'œuvre en vous. Vous croyez que le Christ a fait l'œuvre sur la croix, mais est-ce que vous acceptez maintenant que le Christ fasse l'œuvre en vos cœurs? Parce que c'est ça qu'on travaille maintenant. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous et qui agit. C'est plus notre force, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais c'est en nous. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Et le verset 10 avant, si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, c'est vrai? Parce que si le Christ est en nous, il maintient la mort dans notre corps, ce que nous allons voir dans un instant. Et c'est cela. La mort de Christ, elle est active en nous. La mort de Christ opère en nous tous les jours. Pour quelle raison? Pour que la vie soit manifestée. Mais qui est-ce qui préside à cela? C'est le Saint-Esprit. Si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, parce que si vous le laissez vivre, c'est le péché qui prend le dessus, qui règne, mais le péché ne règnera pas dans vos corps mortels. Mais l'esprit est vie à cause de la justice, puisque Jésus a été ressuscité par la justice de Dieu. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Nous savons que nous ressusciterons même si nous devons mourir, par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes plus redevables à la chair. La chair, elle est là. Hein? C'est vrai. Mais est-ce que vous lui devez encore quelque chose? Non. Vous n'êtes plus redevables à la chair. Ne vous occupez plus de votre chair. Ne prenez pas soin de votre chair. Ça ne veut pas dire ne vous lavez pas. Attention. Négligez-vous. C'est pas ça. Mais en fait, que ce soit plus ça qui soit toujours devant vos yeux. Ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire ses convoitises. Ainsi, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. La chair voudrait toujours qu'on vive comme avant. Pour démentir notre christianisme, pour bien montrer au monde que c'est une idéologie, le christianisme, et que elle a fait son temps, cette idéologie. Il nous faut quelque chose de nouveau. Mais si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, c'est pas moi qui peux faire mourir les actions du corps, mais c'est l'esprit. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et qu'est-ce que ça veut dire, faites mourir les actions du corps? Ce que nous vous disions hier soir, si ma main est pour moi une occasion de chute, coupe-la. C'est l'enseignement de Jésus. Même si c'est une chose qui n'est pas mauvaise en soi, mais ça m'entrave, ça, c'est un piège pour moi, eh bien, il y a des choses auxquelles je renonce. Nous sommes assez libres pour pouvoir renoncer à ce qui nous empêche d'avancer, à ce qui ne contribue pas à notre sanctification. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père, Papa, hein? Littéralement Papa, le Père vous est, c'est fantastique. Et nous avons une relation d'intimité avec Dieu. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons ce témoignage intérieur. Or, si nous sommes enfants, qu'est-ce que nous sommes? Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Donc nous avons tout avec Christ. Tout ce qui s'est produit en Christ se produira en nous. Si toutefois, quoi? Nous vous avons averti. Nous souffrons avec lui. Parce que c'est ça qu'il vous promet. Et c'est à cela que nous sommes amenés. Mais j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui doit nous être révélée. Puis alors, vous connaissez la fin du chapitre, nous n'allons pas nous allonger là-dessus. Mais ce que nous voudrions que vous ayez bien compris, c'est Galates 2, verset 20, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis dans la chair, parce qu'on est encore dans la chair, je ne le vis plus selon la chair. Mais je le vis dans la foi. Mais une foi quotidienne, une foi sans cesse renouvelée, qui s'empare de la promesse de Dieu, puis dit, eh bien, c'est cela que je crois, non pas ce que je ressens, mais c'est ce que je crois, c'est ce que tu as dit. Alors on est plus centré sur nous, sur nos impressions, sur nos sentiments, en étant toujours découragé. On ne regarde plus à soi parce qu'on sait qu'on ne fait pas de progrès. Notre chair ne fait pas de progrès. Vous allez déterrer votre cadavre? Comment est-ce que vous le retrouverez? Un peu plus pourri qu'avant. Voilà. Même si vous avez été embaumé. Ce n'est plus moi qui vis. Je voudrais vous écœurer de vous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Est-ce que je vis dans la chair? Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est lui qui a fait l'œuvre. Alors, on est centré maintenant sur le Christ. Et alors, vous pouvez lire Galates 5, versets 16 à 26, où vous voyez le fruit de l'Esprit et où vous voyez l'œuvre du Saint-Esprit, justement. L'Esprit convoite contre la chair et la chair convoite contre l'Esprit. Pour quelle raison? Pour que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Verset 16 du chapitre 5 des Galates. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Alors, comme on a encore la chair en nous, c'est normal qu'il y ait des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et nous connaissons les désirs de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. C'est plus moi qui m'oppose seulement, mais c'est la chair et l'esprit qui sont en combat, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et alors vous êtes averti. Vous êtes averti parce que si vous voulez faire quelque chose qui est contraire à l'esprit, le Saint-Esprit, il est contristé. Alors dites toujours votre oui à l'esprit. Et si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Puis alors vous voyez ce que sont les œuvres de la chair et où elles vous mènent. Mais vous voyez aussi ce qui est le fruit de l'esprit et ce qu'il peut produire. Alors, quel est aujourd'hui notre raison de vivre et le but que nous poursuivons dans ce monde? Oh, mes bien-aimés, nous arrivons à la fin de cet exposé. Si vous lisez l'Épître aux Philippiens, on l'a étudié ici dans cette salle aussi, une fois, toute l'Épître. Dans le chapitre 1er des Philippiens, un homme en prison dit, pour encourager les Romains, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il y a un commencement. Ne soyez pas découragés si vous êtes tout à fait au commencement. Mais si vous l'avez laissé commencer l'œuvre, qu'est-ce qu'il fera lui? Œuvre inachevée? Non, il l'achèvera. Parce que quand Dieu prend en main une œuvre, il va jusqu'au bout. Laissez-vous faire. L'œuvre qu'il a commencée en vous par son esprit, il l'achèvera. Pour le jour de Christ. Parce qu'il veut, comme on l'a vu dans Jude, vous présenter irréprochable. C'est lui qui va faire ça. Alors, l'apôtre Paul, au fond de sa prison, il dit, mais vous savez, moi, je ne sais pas ce qui va m'arriver, je ne sais pas si je vais mourir ou si je vais vivre encore, si on va me libérer, mais ce n'est pas cela qui me préoccupe. Je sais en tout cas une chose, c'est que le Christ sera magnifié dans mon corps, parce que c'est dans le corps qu'on manifeste la vie chrétienne essentiellement. Ce n'est pas une question intérieure seulement. Évidemment, c'est intérieur, mais l'homme extérieur devient le reflet de l'homme intérieur. Ce n'est pas un masque qu'on met extérieurement, c'est un reflet de l'intérieur. Ce n'est pas un effort de paraître, c'est être. Et si nous sommes en Christ, il y aura une manifestation de vie. Alors, Paul peut dire, je sais que Christ sera magnifié dans mon corps, soit par la vie, soit par la mort. Avoir une mort à la gloire de Dieu, parce que ça aussi, il faut s'en préoccuper. Sans avoir à répondre aux demandes d'Urgel Bourgis et compagnie, qui voudraient toujours que vous occupiez de votre mort, les arrangements avant. Eh bien, je suis assuré que le Christ sera magnifié dans mon corps, soit par la vie, soit par la mort. Je suis plus préoccupé par ça. Si je dois vivre, il en vaut la peine. Puis si je dois mourir, c'est une catastrophe. C'est un gain, c'est aller auprès de Christ, ce qui est de beaucoup meilleur. La mort a perdu son aiguillon. L'aiguillon de la mort, c'était le péché. Le péché, eh bien, le Seigneur l'a pris. Et lui, il a eu l'aiguillon de la mort. C'était le péché. La mort, pour nous, elle a perdu son aiguillon. Alors, ô mort, où est ton aiguillon? Au sépulcre. Ta victoire, nous savons que nous ressusciterons. C'est un message tonique. Et c'est cette parole que nous devons faire entendre aux âmes. Mais, Philippiens 3, alors, va vous montrer que vous entrez alors dans le chemin de la souffrance. On dit, mais comment Paul, tu es mort avec Christ, tu nous as enseigné toutes ces choses dans cet épître, nous avons bien compris cette doctrine de la vie victorieuse. Et toi, tu dis, après tant d'années de vie avec le Seigneur, tu nous sers toute cette épître aux Philippiens, où tu nous dis que les choses qui pour toi était un gain, ce que tu estimais comme un gain, tu considères cela maintenant comme une perte. À cause de quoi ? À cause du Christ. Vous êtes illusionnés, vous croyez que vous avez des gains en gardant les choses qui vous plaisent, mais vous faites une perte, parce que le Seigneur voudrait vous donner quelque chose de tellement plus excellent. Et vous croyez que vous serez malheureux si vous abandonnez ces choses, même si c'était des choses bonnes. Et l'apôtre dit, mais j'avais beaucoup d'avantages selon la chair, mais même ces avantages, je les considère comme une perte à cause du Christ. Verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à quelques petites choses, à tout. Et maintenant, je les regarde même. J'ai laissé tout ça. Je les regarde comme de la... Oui. Je ne l'ai pas dit. Comme de la boue. Afin de... gagner Christ. Et d'être trouvé en lui. On dit, tu vas gagner Christ. Mais vous voyez que ce que c'est que la vie chrétienne, c'est pas une vie statique, c'est une vie dynamique. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, donc on est plus centré sur soi-même. C'est plus des choses dont je viens me glorifier. S'il y a quelque sujet de gloire, c'est le Christ. Christ est ma vie. Je n'ai pas d'autre vie que la sienne. Mais je n'ai pas à me glorifier. Il n'y a rien d'autre. C'est lui ma vie. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi je connaîtrai Christ. Ou littéralement, afin de le connaître, lui. Mais Paul, tu le connais. Oui, mais je veux le connaître davantage. Et la puissance de sa résurrection, j'ai besoin de puissance. On vous parle de puissance, il faut avoir de la puissance, oui j'en ai besoin. Et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances. J'ai besoin de puissance pour pouvoir communier à quoi ? À ses souffrances. Parce que c'est à cela que vous êtes appelés. Et c'est cela que les chrétiens ne veulent pas. Il nous faut entrer dans la communion de ses souffrances. On n'est plus centré sur soi-même, on ne parle plus de nos souffrances, de nos misères. Quand vous entendez les chrétiens, quand ils jasent de leur misère, de leur rhumatisme, de tous leurs maux possibles, etc. Eh bien non, parlons de ce qu'il est, parlons des grâces que le Seigneur vous accorde. Tout le monde a des maux. Nous participons à cette nature. Et nous en subissons des conséquences. Mais c'est l'homme extérieur, puisque c'est ça que je sais, l'homme extérieur, il dépérit. Mais il y a l'homme intérieur qui est renouvelé de jour en jour. Et alors, dans cet homme nouveau, eh bien cet homme nouveau, il peut entrer dans les vraies souffrances. Mais le vieil homme, non. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est de mourir. Mais l'homme nouveau, alors, que vous êtes, c'est un homme qui peut et qui désire entrer dans les vraies souffrances, les souffrances du Christ. Parce qu'il ne peut pas avoir une autre vie que celle de Christ. Et la vie du Christ, ça a été une vie de souffrance. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et alors, vous comprenez ça maintenant. J'ai besoin de puissance pour pouvoir vivre en chrétien et souffrir réellement comme chrétien. Parce que si vous êtes authentiquement chrétien, ce que je vous promets, c'est la souffrance. Mais une souffrance dont vous n'aurez pas honte, et une souffrance qui ne dépassera pas la mesure de vos forces, parce que nous avons affaire à un Dieu de mesure, et qui compte nos jours d'épreuve, oui, en jours, tandis que c'est les siècles des siècles, notre bonheur éternel. Les jours de ton deuil seront finis, voilà. Nos deuils, nos souffrances
est compté et mesuré en jours. Et puis, notre félicité, c'est un poids éternel de gloire. Mais alors, les souffrances dans lesquelles nous entrons, ce sont ces souffrances dont Paul parle aux Colossiens. J'accomplis dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps. Ce sont des souffrances que nous acceptons pour le Christ, qui ne sont pas des souffrances expiatoires, parce que le Christ a tout expié, mais pour que nous devenions tous conformes à l'image de son Fils. Nous souffrons pour les autres, nous souffrons pour les chrétiens, nous souffrons pour que le corps de Christ soit vraiment ce qu'il doit être et que Dieu soit réellement glorifié. Et c'est pourquoi j'arrive au verset, au chapitre 4, portant toujours partout dans le corps la mort de Jésus. Cette mort de Jésus, quand la vie de la chair voudrait se manifester, je la porte dans mon corps, je suis mort. Pour que la vie de Jésus puisse se manifester dans notre chair mortelle. C'est quotidien. Et puis, ce que Jésus a dit lui-même, peu de temps avant de mourir, si le grain tombant en terre ne meurt, il demeure seul. Alors, qui c'est ce grain? C'était Jésus. C'était un bon grain. Et alors maintenant, si c'est vrai pour Jésus, que s'il n'était pas mort, il n'y aurait pas eu d'autre grain. Ce qui vous est demandé à vous, c'est aussi d'accepter de mourir. Vous êtes maintenant le bon grain. C'est maintenant que vous êtes au Seigneur que vous devez tomber en terre. Pas sans ça, vous. Oh, mais maintenant, moi, je suis un beau grain. Mettez-le dans l'écrin. Un bel écrin. Puis regardez l'année prochaine, combien est-ce qu'il y a de grains. Vous enlevez la poussière toutes les semaines, vos grains. Il y a toujours un grain. Mettez-le dans la terre. Il y en aura 30, 60, 100. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi. Livrez vos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. C'est cela votre culte raisonnable, ce culte que nous désirons avoir tout à l'heure. Et puis, maintenant, si l'amour du Christ puissiez-vous juger définitivement ceci, c'est que si lui est mort pour nous, nous aussi nous sommes morts. Et que si nous vivons, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort.